les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Il a fallu du temps, beaucoup de temps au Parti communiste français, avant qu'il ne se décide à réhabiliter Georges Guingouin par la voix de Robert Hue en 1998. Une repentance bien tardive, après l'avoir traîné dans la boue et exclu du parti au lendemain de la guerre, à laquelle Guingouin répondit d'ailleurs simplement « Je ne demande rien à personne. La direction du Parti communiste fait ce qu'elle veut. Quant à moi, j'ai l'âge de la sérénité. » Il avait alors 85 ans. À la tête de son maquis du Limousin, il avait survécu à 4 années d'un combat héroïque contre l'occupant nazi et le régime Vichy. Mais c'était bien dans une prison de la République qu'il disait avoir vu la mort du plus près, là où l'avaient expédié, dans les années 50, les calomnies et la haine de collaborateurs revanchards et l'abandon de ses amis politiques. En 1999, Geneviève Hutin rendait visite à Georges Guingouin pour 5 entretiens d'avoine nue, dont nous écoutons maintenant les 2 premiers. Entendre ici Georges Guingouin évoquer son enfance, ses origines familiales, ses années de formation et les premières années de son adhésion au communisme éclaire ce que fut la suite de l'histoire du jeune instituteur qui, dès les premiers mois de l'occupation, fit le choix de la lutte armée. Premier et deuxième temps de la voix nue de Georges Guingouin, au micro de Geneviève Hutin, diffusé la première fois les 15 et 16 mars 1999.
Cher Georges Guingouin, lieutenant-colonel Guingouin, pour tous ceux que vous avez gagnés à la cause de la résistance, vous êtes resté pour les Limousins d'aujourd'hui l'eau grand, le grand. Vous avez été fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Vous avez été, comme plusieurs historiens l'attestent, le premier maquisard de France. Face à la défaite de 40, qui a porté Pétain au pouvoir, vous avez tout de suite pensé qu'il s'agissait d'abord d'une défaite des élites, des militaires, des politiques. Et vous avez cru à votre conscience, vous avez cru à la fois dans vous-même et dans la lutte du peuple, en suivant l'exemple des soldats de l'an 2. Dès juin 40, vous avez commencé à créer un réseau. En avril 41, vous avez pris le maquis. Et en novembre-décembre 43, vous organisez militairement, dans les forêts du Limousin, les premiers maquisards FTP. Les dirigeants communistes, à qui votre indépendance d'esprit ne plaisait pas, vous ont appelé le fou qui vit dans les bois. En 1944, vous avez libéré Limoges à la tête de vos maquisards. Et surtout, vous avez retardé de 48 heures la marche de la division blindée SS d'Azraich. Vous avez sauvé la tête de pont alliée en Normandie, ainsi que l'a reconnu le généralissime Eisenhower, et permis de ce fait que commence la bataille victorieuse de la libération de la France. Alors pour moi, vous représentez l'idée qu'un homme peut changer le cours de l'histoire, comme De Gaulle ou comme Vaclav Havel. Vous avez à 86 ans une gaieté que je trouve rabelaisienne dans votre voix. Vous êtes un bon géant, un homme qui a vécu une aventure humaine et qui dévorait aussi les livres. Après la guerre, ceux que votre lucidité a dérangés ont ourdi un complot contre vous. Sous des accusations fausses, vous vous êtes retrouvé en prison, en hôpital psychiatrique, victime d'une tentative d'assassinat. De même, en 1945, c'est l'histoire qui a reculé. Les espoirs de la libération ont été bafoués parce que Claude Bourdet, votre ami, compagnon de la libération aussi, a appelé une restauration. Alors, ma première question sera pour vous demander dans quel esprit vous avez été élevé et si cet esprit de résistance est un esprit que vous avez en quelque sorte bu à la naissance parce que vous étiez un peu un enfant de Limoges.
Je ne suis pas né à Limoges, oui. Je suis né à Manac-Laval. Oui. Ma mère était née à Limoges, c'était une limousine, fille d'un porcelainier. Elle était limousine. Moi, on ne peut pas dire que j'étais... à mon point de vue, que j'étais fils de Limoges,
oui.
Mais j'étais fils spirituel, si vous voulez dire, de ceux qui ont fait de grandes luttes à Limoges avant la Première Guerre mondiale. Je me reconnais dans leur lutte.
Alors vous êtes né le 2 février 1913 à Magnac-Laval, une petite ville de garnison au nord de la Haute-Vienne. Qui était votre père, Charles Guingouin?
Mon père, Charles Guingouin, était originaire de la région bordelaise et il était sous-officier de carrière. Alors ma mère était fille d'un ouvrier porcelainier de Limoges. Un de ces ouvriers, dont la profession exigeait une très haute compétence et qui leur avait permis d'acquérir, à force de lutte et de les salaires les plus élevés de France. En 1905, au cours d'une grève, un jeune peintre sur porcelaine, âgé d'à peine 20 ans, fut tué par la troupe d'une balle de fusil Lebel. Toute la presse de l'époque s'enflamma, ce qui provoqua un débat à la Chambre des députés où intervint lui-même Jean Jaurès. Mais la mémoire des hommes n'a pas retenu que le mobile de cette grève n'était pas la revendication d'une augmentation de salaire, mais un mouvement de solidarité avec une ouvrière de l'usine de porcelaine Théodore Avilan, importunée par un contremaître qui prétendait exercer sur elle un droit de cuissage, survivance du Moyen-Âge. Vous voyez que si nous, les résistants, nous avons donné les droits aux femmes de vote, eh bien, bien longtemps, les ouvriers défendaient les femmes.
Et qui vous a transmis cette histoire? C'est votre
mère? Eh bien, cette histoire, évidemment, m'a été transmise par ma mère. Et elle m'a expliqué que le mouvement émancipateur des ouvriers de Limoges était remonté très haut. Il faut rappeler que en 1845, à Boussac, en Creuse, la première coopérative d'imprimerie ouvrière avait été créée par Pierre Leroux. Et en 1848, il faut rappeler qu'à Limoges, la Deuxième République a été proclamée un jour plus tôt que sur les bords de la Seine. Alors ça montre déjà l'émancipation des travailleurs de Limoges. Et dès 1850, on note que plusieurs coopératives de production, comme par exemple la Société fraternelle des ouvriers porcelainiers, ont été créées. En 1865, une coopérative de boulangerie voyait le jour. La plupart n'ont eu qu'une vie éphémère, mais de nos jours, existe encore à Limoges une coopérative d'ouvriers en bâtiment fondée le 6 février 1905 et qui a environ 142 sociétaires avec elle. L'impulsion,
c'était Pierre Leroux.
L'impulsion, c'était Pierre Leroux. Pierre Leroux était un membre de la Société populaire de Limoges et membre de la loge maçonnique des artistes réunis. Il avait édité la revue sociale qui se vendait à Limoges, comme mon grand-père disait régulièrement. Et Pierre Leroux, dont la mémoire est complètement occultée, il faut rappeler que Karl Marx lui-même l'appelait le génial Leroux, et Jean Jaurès reconnaissait qu'il était le cerveau le plus fécond et l'âme le plus socialiste.
Quel souvenir avez-vous de votre toute petite enfance à Saint-Pardoux?
Mon premier souvenir est à Magnac-Laval. J'avais dans les 4 ans, c'est une cour d'école autour de laquelle se trouvaient de grandes tables où mangeaient des soldats en bleu horizon. J'allais et venais parmi eux. Ils m'offraient des friandises et m'enveloppaient tous d'une chaude amitié. Je les entendais chuchoter entre eux, c'est le fils de l'institutrice. Quand par hasard, ils creusaient ma mère, en grand deuil, vêtue de noir comme elle le restera toute sa vie, ils se levaient tous et la saluaient avec respect.
Et alors, qu'est-ce que représente
orphelin de guerre, oui. Somme toute, à ce moment-là, je n'avais aucun souvenir de mon père, puisque j'étais orphelin à 18 mois.
Comment avez-vous appris les circonstances de la mort de votre père dans les tout premiers combats de 1914?
Quand je fis mes études à l'école primaire supérieure de Bellac, il se trouva que le directeur, M. Timbal, avait été rappelé au début de la guerre au grade de sous-lieutenant dans la même compagnie de mon père. Et le hasard voulait que ma mère connaisse très bien la femme de Monsieur Timbal, car elle était la fille de la directrice de l'école normale d'instructrice de Limoges, où elle avait fait ses études. Et naturellement, je lui posais des questions concernant le combat du 28 août 1914, où périt mon père. Il m'expliqua que quelques jours après la mobilisation, toute la population de la ville de Magnac-Laval avait accompagné au son de la musique militaire le régiment jusqu'à la petite gare où il devait s'embarquer. « À Berlin !» criait-on, avec l'espoir que ce ne serait qu'une simple expédition militaire. Alors, c'est le régiment-là, le 308e régiment d'infanterie, sera placé dans la 62e division d'infanterie de réserve. À la tête de cette division, le général Ganneval prendra le commandement. Et le jour où il prendra le commandement, devant un front des troupes, sera donnée la déclaration suivante. Je vous la lis. Placé à la tête de la 62e révision de réserve, j'en prends le commandement à la date de ce jour. Haut les cœurs, et n'oubliez pas que la baïonnette, l'arme française par excellence, est l'ultime argument.
Donc il a renvoyé les hommes sciemment.
Conformément à cette décision.
Au massacre, selon
vous. Le 28 août 1914, après un brouillard épais qui couvrait la plaine, le régiment, arrivé près des lignes allemandes, chargea baïonnette haute. Et en 10 minutes de tir, à peine, les mitrailleuses crachèrent, et sans même avoir tiré un seul coup de fusil, tous les fantassins s'écroulèrent, tués et blessés. D'après le rapport officiel militaire de l'époque, de ce régiment, 19 officiers, 1120 sous-officiers, caporaux et soldats ont été tués. Et à côté de ce 330e régiment, un autre régiment de la division, le 263e, perdait 1280 hommes. Si en principe les militaires comptent que pour un tué, il y a deux blessés, vous pouvez considérer qu'au premier jour de bataille, au baptême du feu, les deux régiments étaient anéantis. Et dans une lettre que j'ai, qui a été adressée par M. Mallet, maire de Sens-Loire, à M. Camille Grelier, conseiller général de Magnac-Laval, on peut lire « Vous pouvez dire aux pauvres parents que la population du Translois, tout entière, a fait plus que son devoir pour donner à ces glorieuses victimes une sépulture digne d'eux, où ils ont été alignés respectueusement dans l'immense fosse comme à la parade. » Et dans le cimetière de cette localité du Translois se trouve une grande fosse qu'on appelle la Grande Tombe, où a été creusée sur 10 mètres de long, profonde de 4 mètres, et large de 4 mètres, et où dort à jamais 800 braves, dont mon père Charles Gangouin. Alors, le général Ganneval fut relevé de son commandement, et envoyé dans la région militaire de Limoges. Il s'y retrouva, pas seul, sous les ordres du général Joffre, 134 officiers supérieurs généraux, reconnus incapables, il fut assigné à résidence. D'où ce qu'on connaît, l'expression limogé, qui, selon le petit Robert, signifie « disgracier un officier supérieur ».
Pourquoi cette faute n'apparaît pas lorsque...
Cette faute n'apparaît pas parce que dans l'histoire de France, comme dans toutes les histoires, les erreurs des élites sont cachées au peuple.
Après 1918, votre mère enseigne à Compreignac.
Oui.
Et un souvenir significatif que vous auriez gardé est une commémoration des morts de la Grande Guerre à laquelle elle n'a absolument pas voulu aller.
Oui, je veux bien vous en parler, mais je voudrais parler avant d'un fait qui m'avait très touché dans ma sensibilité d'enfant.
Oui.
Un soir à Compreignac, j'avais vu rentrer un vieil homme avec son épouse en pleurs et qui m'avait demandé de prendre contact avec ma mère. Naturellement, j'étais allé près de ma mère et je les avais amenés dans la salle à manger où ma mère recevait des personnes qui désiraient le voir. Et après, je les avais raccompagnés à leur sortie et leurs pleurs étaient séchés. Curieux comme tous les bambins, comme tous les enfants, j'avais demandé à ma mère pourquoi était-il venu, pourquoi était-il en pleurs. Alors elle m'a dit, tu comprends, où est mort ton père? On doit mettre des plaques de marbre portant leur nom. Mais ces plaques de marbre doivent être payées par les familles. Et comme ces pauvres vieux n'ont pas l'argent nécessaire, ils étaient venus me demander de voir comment on pouvait les aider. Alors, j'avoue que j'en suis resté sur là. Je n'ai pas posé d'autres questions. Mais je suis persuadé que ma mère, tout simplement, a payé à leur place pour que le nom de leur fils paraisse sur une plaque de marbre. Ça m'avait énormément frappé. Un autre point qui m'avait frappé, le monument aux morts de Compreignac devait être inauguré. Naturellement, en grande pompe. Il y avait de hautes personnalités qui devaient venir, naturellement l'armée. Pour moi, il n'y avait aucun doute que ma mère, même étant donné qu'elle était même directrice d'école, devait y être. Mais elle vaquait tout simplement à ses occupations quand le dimanche de l'inauguration est arrivé. Alors étonnée, je lui ai dit, « Maman, tu ne vas pas à la cérémonie ?» Elle me dit, « Non, j'y vais pas. » Et moi, je lui pose la question, « Et moi, est-ce que je peux y aller ?»« Mais oui, mon petit, tu peux y aller. » Alors j'y vais. La cérémonie avait à peine commencé, mais quand les discours ont été prononcés, quand une personnalité a prononcé un discours, j'ai senti comme une houle dans la foule. Je comprenais un peu le patois, mais je comprenais très bien que les gens n'étaient pas contents de cette personnalité. Alors, quand la cérémonie soit terminée, je suis revenu à la maison et j'ai posé la question à ma mère, mais quand M. Untel a parlé, les gens étaient manifestés mécontentement, je ne comprends pas. Ah, elle me dit, mon petit, que veux-tu? Lui n'a pas été au front, tu sais. C'était un embusqué. Alors, il n'avait pas sa place de venir parler devant le monument. Voilà, une leçon de morale réelle donnée pour ma mère.
Est-ce que c'est par votre mère que vous est venu l'amour de la lecture? Ou bien est-ce que c'était aussi parce que vous étiez un enfant un peu solitaire?
Je pense, vous parlez à l'éducateur.
Oui.
Je pense que c'est uniquement du choix des livres que m'a donné ma mère. C'est ma mère qui m'a naturellement choisi tous mes premiers livres. Et naturellement, c'est en prenant des livres qui me plaisait. Je crois que c'est elle qui m'a donné le goût de la lecture. Et alors, c'est une pointe, on peut dire. Mais je me rappelle en particulier, je ne sais pas pourquoi, elle m'avait donné un livre d'Erckmann et Chatrian, L'invasion, qui relate l'invasion en 1815 de la région vosgienne par les Cosaques. Et ce livre, je l'ai peut-être relu deux ou trois fois, il y en a même rêvé. Et j'y ai pensé plus tard, quand j'ai fait l'action de partisan, alors que quand j'avais peut-être, je ne peux pas vous dire, 8 ans ou 9 ans, j'avais relu deux ou trois fois ce livre. Alors je suis certain que c'est grâce au livre que choisi par ma mère que j'avais cette passion de lecture.
Dans l'invasion, on voit les paysans vosgiens qui se soulèvent contre
l'invasion. Il se soulève contre l'invasion et contre les Cosaques et tout.
Donc c'est un type de guerre populaire.
Un type de guerre populaire. Avec
comme celle que vous avez
et qui m'avait enflammé quand j'étais tout jeune, tout enfant.
Votre mère incarnait une certaine tradition républicaine, celle qu'on appelle les hussards noirs, les instituteurs qu'on appelait les hussards noirs.
Mais les hussards noirs de la République, moi, j'ai vu ma mère considérée, on peut dire, je n'étais pas presque jaloux, mais ses élèves comme ses filles. Élever les enfants et les du peuple, c'est capital, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les hussards noirs de la République. C'est des laïcs chevronnés.
De 1924 à 1928, vous avez été interne à l'école primaire supérieure de Bellac.
Oui, mais je trouvais aussi à cette école primaire supérieure un professeur, Monsieur Marnet, et qui, lui, comme les anciens penseurs avant nous, avait une grande barbe noire, je me rappelle de ça. Et qui un jour, quand j'étais en quatrième année d'école primaire supérieure, nous proposa d'assister à des cours d'économie politique. De lui-même, il nous demanda ça. Et je fus parmi, je ne sais pas combien, peut-être 10 ou 14 élèves d'école normale qui, pendant un an, suivirent ce cours d'économie politique. Alors là, il expliqua les principes de l'économie capitaliste. Alors, le rôle de la plus-value, je me rappelle même, vous voyez, ça me revient à la mémoire, qui nous parla du grand économisme Keynes, c'est ça, et qui avait prévu que dans le siècle à venir, la journée de travail pourrait être, la semaine de travail pourrait être de 21 heures. Vous voyez, hein? Il avait prévu ça, Keynes. Bon, et c'est un point essentiel à arrêter, naturellement. Il nous parla de la révolte sociale, des canuts lyonnais, il nous parla de la naissance de la Confédération Générale du Travail à Limoges en 1895, de la formation de la coopérative ouvrière d'Albi par Jean Jaurès. Et sur Jean Jaurès, il nous mit au courant d'un point central, qui est complètement oublié et rayé de la mémoire des hommes, et nous expliqua qu'il y avait eu, entre Guède et Jaurès, un conflit à propos de la nationalisation des mines. Pour la nationalisation des mines qui était proposée, pour Guède, nationaliser les mines, ça voulait dire faire revenir les mines à l'État. Tandis que pour Jaurès, ça signifiait de la redonner aux ouvriers associés, c'est-à-dire aux mineurs. Et c'est un point central. Un point central qui est complètement oublié. Parce que là, justement, on touche à un point essentiel, parce que la nationalisation vue par Guède, c'est la nationalisation de l'État de l'Union soviétique, avec les erreurs du bureaucratisme que ça entraîne. Tandis que Jaurès, c'est donner le travail aux hommes, mais c'est les élever. C'est le rôle humain essentiel saisi par Jaurès. Parce que Jaurès, faire attention, et sa caractéristique essentielle, c'était un grand humanisme. Et on avait noté en particulier, il nous a expliqué que quand Jaurès s'adressait à un auditoire d'ouvriers, au lieu de dire, comme c'était l'usage citoyen, à l'auditoire, il disait camarade. C'est un excellent humanisme. C'est l'homme qui veut que l'homme s'élève.
En tant que militant communiste, est-ce que vous étiez aussi une exception? Est-ce que vous étiez seul à lire les penseurs? Dans votre entourage, est-ce qu'il y avait des amis avec qui vous discutiez?
À ce moment-là, quand j'étais militant communiste, je me suis abonné à une revue, naturellement, les revues régulières du parti, théorique, qui était très importante, que je considérais très importante, c'était la Correspondance internationale. La Correspondance internationale était une revue, était le seul abonné pour toute la Haute-Vienne, qui traitait de la lutte dans toute la planète, mais c'était les dirigeants eux-mêmes qui donnaient leur opinion. Alors il y avait une diversité de vues, une opinion différente, ils expliquaient les problèmes, c'était pas comme les revues officielles du PC qui venaient de Moscou, où il y avait la pensée stalinienne qui écrasait tout, la pensée unique stalinienne. Dans la Correspondance internationale, je me rappelle qu'il y avait la lutte de Vargas au Brésil, etc. Vous avez les lutteurs de cette époque-là qui donnaient le bien de leur lutte. Mais là, vous pouvez comparer et réfléchir. Tandis qu'avec les ouvrages qui venaient directement de Moscou, c'était du nez, c'était Staline, c'était la pensée unique stalinienne, la déformation. Hein, c'était très très important. Mais ce qui est plus important, je vous le répète une fois, c'est revenir aux heures mêmes. Ça, c'est le point capital. Ce que les gens n'ont pas peur, évidemment, ça demande de lire des pages et des pages et des pages, mais on va en parler dans la deuxième chose.
C'était le premier volet de La Voix nue de Georges Guingouin au micro de Geneviève Hutin, diffusé la première fois le 15 mars 1999. Tout de suite, le deuxième temps de La Voix nue de Georges Guingouin au micro de Geneviève Hutin, diffusé la première fois le 16 mars 1999.
Georges Guingouin, lieutenant-colonel Guingouin dans la Résistance, vous nous avez raconté vos années d'enfance, vous nous avez dit en quoi vous étiez un enfant spirituel de Limoges la Rouge, avec ses souvenirs de lutte sociale. Nous allons parler maintenant de vos années comme élève instituteur et de votre passage à l'âge adulte. Je voudrais savoir comment vous êtes devenu autre chose qu'un intellectuel classique, comment vous êtes devenu un leader populaire. Et d'abord, pourquoi avez-vous décidé d'entrer à l'école normale d'instituteur? Est-ce que vous n'avez pas songé à une autre carrière?
C'était un désir de ma part de devenir instituteur. J'avais au cœur de faire ce que faisait ma mère, c'était le désir d'enseigner, d'élever les enfants des hommes. Après, je me suis trouvé à donner l'éducation aux adultes, mais à ce moment-là, c'était mon point de vue. Et alors, en deuxième année d'école normale d'instituteur, j'avais comme professeur M. Kunz. Et c'était l'usage chez nous que des exposés étaient faits par les élèves pour remplacer le professeur. C'est une bonne méthode d'éducation. Et alors, sur la liste que nous avait passée M. Kunz, j'avais choisi de faire l'exposé sur Robespierre. Alors, naturellement, après mon choix, je m'étais approché du professeur et je lui ai dit, M. Kunz, quel livre particulièrement je dois étudier pour faire l'exposé? Alors il m'avait cité un tel, un tel, un tel. Et puis, ça m'avait frappé un petit peu. Après une minute d'hésitation, il m'avait dit, vous pourriez bien voir Mathias. Alors, je me suis mis au travail pour faire l'exposé. Vous savez, c'est un travail supplémentaire. Consulter des livres importants, un peu de notre travail ordinaire, c'était pas rien déjà. Et alors, quand j'avais presque bouclé mon exposé, il m'a dit de regarder Mathias. Ben, j'ai regardé Mathias. Catastrophe. Quand j'ai pris connaissance de Mathias, toute ma thèse que j'avais préparée, selon les historiens les plus officiels, ben, il fallait que je la révise, parce que j'avais adopté la thèse de Mathias. Alors le jour de l'exposé, naturellement, j'expose ma thèse, il y a appel à la discussion. Tous mes camarades d'école normale m'approuvent ma thèse, m'ont exposé, parce que j'ai bien expliqué cette approuvation de ma thèse.
Oui, alors il faut quand même que vous nous expliquiez deux choses encore. C'est premièrement, pourquoi vous aviez choisi Robespierre comme figure de la Révolution française, qui vous intéressait particulièrement, et qu'est-ce que vous avez fait comme découverte qu'il existait deux visions?
Alors, le point essentiel, naturellement, j'étais déjà un passionné d'histoire au moment. Alors, évidemment, la Révolution française m'avait particulièrement intéressé. Et là, j'ai remarqué, j'étais surpris que, naturellement, il y avait, de la part de nos historiens, c'était très net, deux visions d'histoire. Et cela m'a entraîné beaucoup plus loin, parce que je me suis aperçu que là, on avait un point fondamental. Parce que vous comprenez, il y a la connaissance, alors, la connaissance universelle n'est jamais finie. Bon. Et il y a la réflexion sur ce que vous connaissez. Et puis après, il y a l'action. Vous comprenez ? C'est les trois pôles de l'être humain. À mon point de vue, il y a la connaissance, il y a la réflexion, et après, ça détermine l'action. Comme Bernard de Clairvaux l'a dit à la première croisade, il fallait étudier les textes sacrés en réfléchissant. Vous vous rendez compte, les textes sacrés, en principe, vous ne voudrez pas les réfléchir dessus. Vous allez au contraire adorer.
C'est normal.
Alors, lui, Bernard de Clairvaux, au contraire, il faut ruminer, il faut réfléchir à ça. Bon. Et c'est un point essentiel, puisque j'ai retrouvé la même expression plus tard dans Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, et de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. Et même observation dans Marx, dans une lettre qu'il avait adressée à Engels, où il disait « J'en ai assez de l'hypocrisie, de la sottise, de l'autorité brutale. » Et il avait mis à ce moment-là en garde les dirigeants qui, sous des idées de gauche, je lis, étaient des prêtres du pouvoir d'État, des coquins qui exploitent la crédulité des masses, des parasites. C'est des points centraux, à mon point de vue.
Vous ne nous avez pas dit pourquoi vous aviez choisi Robespierre?
Parce que j'étais intéressé de moi-même par les gars de l'âme 2, etc. Enfin, toute l'épopée de la Révolution française.
Oui.
Lorsque, par exemple... Je vous cite un cas, parce qu'on reste deux heures sur ces histoires-là. Je vous cite un cas qui était très important. À un moment donné, l'Assemblée constituante, je crois, a décidé de déclarer la guerre à l'empereur d'Autriche et au roi de Prusse. Parce que vous savez très bien qu'à ce moment-là, beaucoup d'émigrés étaient partis pour porter des armes contre la France. Et alors, à ce moment-là, les trois quarts des conventionnels disaient non, il faut déclarer la guerre à la Prusse et à l'Autriche. J'avais lu son discours et j'ai été frappé de son argumentation. Il avait dit exactement ceci. Si vous déclarez la guerre aux puissances étrangères, bon, eh bien, il vous faudra avoir une armée. Or, vous n'avez plus d'armée. Tous les cadres militaires sont partis de l'autre côté. Les comtes, etc., ils sont pris en peur d'Autriche. Bon, il va falloir appeler des volontaires. Il va falloir former des cadres. Avec des sous-officiers, vous pourrez faire des généraux. Ça a été le cas de pas mal de généraux de la République. Mais quand le combat arrivera, la mort fauchera des deux côtés. Autant dans notre rang que dans le rang des Autrichiens et des autres. Mais attention, vous demandez aux meilleurs de partir au combat. C'est-à-dire, c'est les gars les plus nobles, les plus dévoués, que vous demandez de partir à la guerre. Alors quand la mort fauchera de votre côté, par rapport à l'idéal républicain, c'est une perte terrible. Parce que vous tuez vous-même vos meilleurs. Alors que pour le roi de Prusse ou pas, c'est de pauvres chefs, de pauvres soldats, des mercenaires qui meurent, c'est pas pareil. Et ça m'avait frappé. D'ailleurs, c'est le même argument pris par Lénine en 1917, où il voulait absolument faire la paix.
Oui.
Et ça, on comprend, parce que ça, c'est le poème décisif de la guerre. À la guerre, eh bien, l'homme risque sa vie. Alors, vous-même, vous affaiblissez à jamais les forces de progrès si vous vous engagez dans une guerre. Et ce discours de Robespierre m'avait frappé.
Donc, vous nous avez dit comment vous pratiquiez la rumination à l'exemple de Bernard de Clairvaux à l'école normale de Limoges.
De Limoges.
Vous nous avez parlé de votre dissertation sur Robespierre. Vous devenez en même temps un homme plus conscient de ce qui se passe autour de vous, puisque vous participez à une manifestation le 12 février 1934. Et vous êtes le seul de l'école normale à y participer et à faire grève.
C'est exact.
Est-ce que vous vous sentiez différent des autres normaliens?
Non, j'étais plus sensible, je veux dire. J'étais plus sensible avec au combat ouvrier. À ce moment-là, vous savez, dans les journaux, on parlait des ligues fascistes, de la direction française, qui voulait attaquer la République. Tous les journaux étaient pleins du 6 février 1934, où il s'est fallu d'un cheveu que la République ne meure. Et alors à ce moment-là, quand il y a eu l'opposition de la classe ouvrière, avec la CGT, la CGTU, qui a organisé la grande manifestation le 12 février 1934, j'ai dit mon devoir moral, je veux dire, est d'y participer. Seulement, j'avais un risque, c'est que, étant normalien, je n'étais pas couvert comme les instituteurs, les normaliens, et l'école normale n'avait pas le droit de faire grève comme les instituteurs. Et quand participant à la réunion, j'ai vu M. Vergniaud, qui était un maître d'application, il me dit surtout faites attention à vous. Et en revenant naturellement, mon directeur d'école normale me dit ah, qu'est-ce que vous avez fait le 12 février? Je lui dis honnêtement, eh ben, j'ai participé à la manifestation, alors comme certainement il avait des idées favorables, il ne m'a pas sanctionné, mais il m'a dit la prochaine fois, vous risquez d'être sanctionné, d'être renvoyé de l'école normale. C'est, si on veut dire, c'est un acte de courage civique individuel. C'est mon premier acte de courage civique, si vous voulez.
Alors le fil que j'aimerais bien suivre, c'est... C'est celui qui fait de vous à la fois un instituteur et un communiste.
Ah, mais
comment ça s'articule, ces deux choses?
Non, c'est plus tard.
C'est plus tard. Alors, au moment du Front populaire...
Non, le problème capital de l'école normale, c'est fini. C'est mon apprentissage militaire, c'est capital. Parce que dans ma vie militaire, c'est capital. Alors, à l'école normale, toute l'école normale de France, comme tous les normaliens, on fait des études de préparation militaire supérieure. Et pendant 3 ans, j'ai suivi les cours préparatoires pour l'arme de l'infanterie. Au dernier moment, avant de passer l'examen qui me permettait d'être officier de réserve, j'ai eu un ami de mon père qui a dit à ma mère « Ton fils veut absolument être officier de réserve. Dis-lui que si il veut pas être officier de réserve, parce qu'il faut comprendre. Les instituteurs, officiers de réserve, ce sont des rouges. » Alors, entre nous, souvent dans les casernes, c'est eux qui ont les corvées. Mais s'il veut, par exemple, être à Paris, j'ai la possibilité de le faire nommer à la 6e compagnie spéciale des états-majors de Paris, qui est à l'école militaire, mais là, il sera que deuxième classe. Mais là, s'il veut voir tous les théâtres et connaître la vie parisienne, la carte est libre toutes les semaines. Alors... Naturellement, la stupéfaction de mon capitaine Charbonnier, qui ne comprenait pas que j'avais séché l'examen, je ne me présentais pas à l'examen, et je fis alors mes 12 mois de militaire comme secrétaire d'état-major à Paris. Et alors là, mes connaissances militaires se sont développées parce que j'ai pris des connaissances militaires, je savais comment fonctionne un état-major. Et pour moi, dans ma lutte, ces deux points ont été décisifs, parce que malheureusement, vous savez que dans la résistance, les 3/4 des officiers qui avaient des capacités ne sont pas venus, ils n'ont pas été dans la résistance, ont manqué d'officiers, et naturellement, pour être officier d'état-major, il fallait des connaissances. Alors ça m'a énormément servi dans ma vie de partisan. Ça m'a mis, si on peut dire, le pied à l'étrier. pour être un partisan. Et dire comme Charles Dion l'a reconnu, être l'initiateur des combats de guérilla de Limousin.
Voilà,
alors, en 1935, au retour de l'ancien militaire, je suis nommé à la petite école de Saint-Gilles-des-Forêts, qui est au pied du Mont Cargan. C'est une école mixte, avec 6 garçons et une quarantaine d'élèves. Alors, naturellement, je fais tous les jours mon métier d'instituteur, et sur le plan personnel, j'adhère au Parti communiste. J'adhère au Parti communiste, et fin 1935, j'assiste à la première réunion du rayon de communistes des métiers, et qui comprenait 4 cantons ruraux. Et à l'Assemblée, j'ai une surprise. Parce que je suis proposé par un militant de cette région devant être le secrétaire de rayon. Étonné, j'accepte naturellement, étonné. J'ai demandé au militant, j'ai dit, mais vous m'avez surpris. Ah, il m'a dit, on sait que le 12 février 1934, tu as risqué ton métier en participant à la grève de 12 février 1934. Nous te considérons comme adhérent au parti depuis cette date-là. Alors me voilà donc responsable du Parti communiste pour le rayon des Moutiers, est chargé par mes camarades de proposer candidat Marcel Lenoble comme candidat député aux élections de 1936 qui arrivent. Éventuellement, chargé de mon mandat, je vais à l'Assemblée départementale et j'ai la surprise d'être interpellé par le secrétaire régional du Parti communiste départemental Citerne, qui me dit, oh, les camarades de ton rayon proposent le Noble comme candidat, tu ne pourrais pas intervenir pour changer d'avis, pour que les gars changent d'avis. Alors, naturellement, je lui dis, mais c'est pas possible. J'ai un mandat, et régulièrement, je le tiens, je lui proposerai Marcel le Noble comme candidat.
Oui, là, vous nous racontez une manipulation. Oui. La candidature de Marcel Lenoble, élu par les sections du Parti communiste, n'est pas agréée par l'appareil.
Par l'appareil, par la direction du parti. Et alors, si Citerne intervient, on vote, c'était libre. Tout le monde nous donne raison. Et il y avait un secrétaire national du parti qui était présent. Le secrétaire national du parti ne dit mot. Il ne s'en sort pas. Mais enfin, quant à l'appareil, le choix du parti et les membres du parti avaient été adoptés. Ça, c'est le 36, n'est-ce pas? On faisait des campagnes électorales en 36. Mmh. Bon, alors, à la période de 36, du point de vue international, si on peut dire, j'ai une première surprise, qui est l'arrestation en Union soviétique du général Tukhachevski. Je connaissais assez son palmarès, ce qu'il avait fait, cela m'a étonné. Mais j'ai pensé à la Révolution française. À la Révolution française, on avait bien du Mourier. Du Mourier, lui, avait trahi. Alors, c'est ça, le danger de l'amalgame. Il a trahi, alors. Ça arrive dans toutes les... Bon. Mais alors arrive une nouvelle beaucoup plus considérable. J'apprends que s'ouvre à Moscou le procès du bloc des droitiers et des trotskistes antisoviétiques par le collège militaire et la cour suprême de l'URSS et dans laquelle est impliqué Boukharine. Alors je sais d'après les œuvres que j'avais lues de Lénine que Lénine avait considéré Boukharine comme, c'est son propre expression, comme l'enfant chéri du parti. Alors naturellement je désire absolument de voir ce qui s'est passé à ce procès. Et j'ai réussi à me procurer un documentaire très rare qui vient directement de Moscou, édité par le Commissariat du Peuple de la Justice de l'Union soviétique et qui est le procès des droitiers Boukharine, Rykov, Yagoda, etc. Je m'attendais à un débat passionné. Des hommes qui défendent leur honneur, défendent leur innocence. Au contraire, tous, ils en ajoutent plus même que le procureur. Et je vois Boukharine qui reconnaît. Nous prenions des précautions de conspirateurs pour nous voir conspirateurs. Il se reconnaissait lui-même conspirateur. C'était ahurissant, et étant donné que c'était des innocents.
Et alors, quelle fut votre réaction personnelle ?
Ma réaction personnelle, ça a été une réaction de nausée. J'ai eu la nausée en lisant ce livre-là. Et il était à 100 lieues de moi de croire que c'était des innocents. C'est comme ça qu'on dupe les peuples, qu'on dupe les militants. C'est un sentiment de nausée. Et quand j'ai lu ce livre, et je vous dis, jamais j'aurais cru que c'était des innocents. Et voilà. Ça, c'est le procédé de tromper et duper les hommes.
Qu'est-ce que vous appreniez des gens eux-mêmes, des paysans eux-mêmes, lorsque la réunion de cellules se terminait et que commençait ce que vous appelez la deuxième réunion de cellules ?
Bien.
Avec un petit verre de rouge.
Comme j'étais, et quand j'étais secrétaire de rayon, mon travail, surtout à la période hivernale, la période automnale, pas la période des travaux champêtres, c'était d'assurer moi-même les réunions de cellules, de ces quatre cantons. Alors naturellement, quand la réunion de cellules commençait, le secrétaire de rayon, c'était son travail, parlait de la situation politique, intérieure, extérieure, fait brosser son tableau, évidemment, son travail politique, élever les hommes, comme pareil. C'est pas des enfants, c'est donner l'instruction à des adultes, les instruire. Parce que le problème, c'est toujours instruire l'homme. C'est le point fondamental. Bon. Alors, après le discours de secrétaire de rayon, on demande que les contradictions, des camarades qui demandent des questions. Alors, vous savez, les trois quarts, c'était des camarades paysans. Pas beaucoup à parole, c'était rare s'il y en avait une question ou l'autre. Et alors, comme c'était la fraternité de base, c'était l'usage de boire le rouge, chacun voulait payer sa bouteille, quoi. C'était une fraternité de base connue. Mais alors, je me suis aperçu, ça m'embêtait beaucoup, parce que ça allongeait la réunion, et moi, naturellement, j'avais à revenir vers minuit ou une heure près de mon gargant, et là, de souvent, c'était les nuages, et il fallait qu'avec un petit tube-là, je pilote par rapport au fossé. Mais il m'était arrivé un point essentiel, un beau jour, en parlant les langues déliées, et j'ai appris, par exemple, à Marléon que le grand-père d'un des camarades avait été au bagne, il avait été arrêté. Et ainsi, j'ai appris que dans cette région-là, en 1851, au moment, par exemple, où le coup d'État de Napoléon s'était déclaré, il y avait le député de Saint-Léonard, Lamazière, qui avait appelé les gens de la région à se défendre. Il y a eu même un vrai combat entre les paysans de la région de Linard et les hussards de la Maréchaussée, et que beaucoup de gens avaient été pourchassés qui défendaient la République. Et que même à Linard même, un nommé Fauché était resté 7 ans planqué dans les carrières de Lina. On pouvait dire que c'était le premier réfractaire avant nous. Et alors, en continuant ça, j'ai appris des tas de choses qui ne paraissaient pas dans mes livres. J'ai appris par exemple qu'au moment de la commune, il y avait un habitant de Sussac qui s'appelait Senis et qui avait été à la commune de 71 commissaire aux barricades et commissaire de la commission du travail. Et il avait pu échapper à la semaine sanglante et était venu avec 18 de ses camarades dans la région et qu'il avait été planqué dans les bois de la région de Doms. Et là, les gens leur apportaient à manger d'eux-mêmes. Et il y avait même un petit garçon que j'ai connu qui avait 12 ans à cette époque-là, Pontex Pardou, qui leur apportait le ravitaillement. Alors, grâce à des cheminots de Lyon, nous partirent en Suisse et ils ont attendu l'amnistie pour revenir en France. J'ai appris, par exemple, même dans ma propre commune, il y avait un habitant de la forêt basse qui s'appelait
Tout Mieux,
qui avait été pris armes à la main en défendant une barricade au Faubourg Saint-Denis à Paris, et dont le corps repose parmi les fusillés
de
Père Lachaise. Là, somme toute, on peut dire que le militant a porté sa connaissance et les hommes de base, les hommes du peuple, apportaient eux-mêmes leur connaissance. C'est-à-dire, on apprenait l'autre, on avait appris à connaître l'autre. C'est une faculté importante qui m'a beaucoup aidé dans la bataille. C'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai pu être le gars qui a mieux incrusté la défense armée dans les masses populaires en défendant leur intérêt réel. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y avait le régime de Pétain qui se prenait réquisitionner le foin, qui réquisitionnait le blé, et laissait très peu aux paysans. Ben, je faisais bien des tracts, je me rappelle en 41, on me disait, il faut rien livrer aux Allemands. Mais en discutant avec les gars, on dit, mais que voulez-vous que nous fassions? Alors, j'avais compris, c'était mon rôle des groupes armés, de prendre leur défense. Et c'est comme ça que les premières botteuses ont sauté en 42, qu'après les batteuses, etc. C'est-à-dire que j'ai fait le lien essentiel d'une lutte armée avec la population. Parce que quand il n'y a pas un lien essentiel avec la population, automatiquement, c'est comme pour Che Guevara, qui n'avait pas l'appui de la population bolivienne, eh bien la lutte armée, c'est le sorceau funèbre. La condition essentielle d'un combat armé, c'est d'avoir l'appui de la population. Et ça, c'est un départ.
C'était les premiers et deuxièmes volets de La Voix Nue de Georges Guingouin au micro de Geneviève Hutin, diffusé la première fois les 15 et 16 mars 1999. À suivre. Vous pouvez les télécharger et les réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de l'abîme, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.